c'est marrant comme autour de l'accordéon, je trouve qu'il y a des passions vives, quoi. C'est soit les gens détestent, ou soit ils adorent.
Tu sais, c'est vraiment le déchaînement de passion antagoniste. Et nous, on prend un peu de distance avec ça, on joue avec le cliché aussi, quoi. Tu verras au milieu du spectacle, il y a vraiment un moment, c'est vraiment instrumental et on joue un petit peu avec le cliché de ça. Mais d'ailleurs, c'est super dur on avait déjà fait des expériences, mais de faire un thème à l'unisson guitare-accordéon pour que ça sonne bien, vraiment avec les mêmes trucs, c'est hyper dur, quoi.
C'est assez difficile, ouais.
C'est hyper dur parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir le même time et le même truc et tout, il y a vraiment une histoire de liaison, de phrases, de trucs, et c'est vrai que les modes de production ne sont pas du tout les mêmes, comme tu dis.
Quand ça marche, c'est vraiment bien, mais ce n'est pas évident.
Non, du tout, c'est dur.
Après, il faut des fois un peu simplifier. Enfin,
mais moi, j'aime. Je trouve pas que c'est le plus intéressant de faire des thèmes à deux, ou s'il y a deux voix, pourquoi pas. Mais j'aime plus la complémentarité entre les instruments, quoi. Ouais. C'est-à-dire les contre-champs qui passent bien, les trucs. Ça, je trouve ça super, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Je trouve ça plus intéressant.
Ouais, carrément. Ouais.
C'est pas une musique de section, quoi.
Non, pas vraiment.
Ou même, c'était souvent en enregistrement, on entend beaucoup des sax-basses faire les basses. Dans les vieux trucs, parce qu'en fait, la contrebasse, c'était trop compliqué à enregistrer. Il n'y avait pas assez de space, c'est timbré, en fait. Et bon, les micros de l'époque, il faut voir aussi les trucs. Mais ouais. Et oui, c'était souvent des sax-basses qui jouaient 5 mètres derrière tout le monde, parce que ça foutait un gros barouf.
T'as des exemples de...
Il faut regarder dans les frémo, là, les compiles frémo Paris 1920, je ne sais plus quoi, 1940,
Paris comme Musette ça. Sur la compil Paris.
Alors justement, ils l'ont fait dans Paris Musette aussi, quoi, mais ça c'est plus tard, c'est les années 90, je crois même. Et justement, il y a des trucs où ils ont pris le sax-basse pour faire certaines basses et tout, mais c'était vraiment, à l'époque... surtout en enregistrement d'ailleurs.
Est-ce que tu as étudié le jeu de basse qui est assez propre à l'orchestration Musette, à la manière dont Barreau ou Matelot
Alors ouais, même si ça reste toujours très mystérieux pour moi. Alors un des bons exemples que j'ai pour moi c'est Boulou. Quand il joue justement, par exemple, une petite vidéo là où je joue Montagne Sainte-Geneviève là, dans l'atelier Favino.
Oui.
Et dans le jeu de basse, moi je trouve ça super parce qu'il agit un petit peu comme Matelot fait, mais après j'ai moins de preuves matérielles de ce qu'a fait Matelot. Mais justement de cette grande richesse.
Parce qu'il y avait vraiment un jeu avec l'accordéon et la guitare qui était quand même...
Totalement, très étonnant. Ouais.
C'est marrant. Ah, vas-y, je te laisse terminer. Oui, j'ai une petite anecdote là-dessus, mais quand je me suis mis à écouter Deezer et tout, je me rendais compte en fait qu'il ne jouait pas sa main gauche en accompagnement parce qu'il y avait contrebasse, guitare, batterie, il n'avait pas besoin. Mais par contre, il ponctuait. C'est-à-dire, quand tu prends par exemple Flambé Mattel Badez, il y a une espèce de réponse. Alors après, est-ce que ça a été repris par les guitaristes? Mais en tout cas, ça fait partie ça fait partie des compos parce que vraiment, même que sur les partitions que tu retrouves, qui ont été retranscrites pour la plupart par quelqu'un d'autre parce qu'il ne savait pas écrire la musique, tu as vraiment à la main gauche les cris des contre-champs, quoi. Et il y a vraiment ce côté dans les trous. Après, c'est plutôt la guitare qui a pris ce rôle-là, et arrivé sur une autre basse qui n'est pas souvent la fondamentale d'ailleurs. Et ce truc de combler les trous, il y a un côté un peu contrapathique en fait, entre les deux parties.
Parce que vous êtes Django aussi quand il jouait du banjo aussi corps.
Oui,
vraiment ce truc-là de manière très brillante d'ailleurs.
Django ou Barreau d'ailleurs.
Django ou Barreau.
Donc la guitare, elle a vraiment un double rôle.
Ce côté qui est très. C'est très très étonnant quand même, Barreau. Harmoniquement, c'est très étonnant. Et
le jeu de basse, c'était.
Et encore une fois, quand on rejoue les trucs, je me sens encore libre. On est encore libre de changer l'harmonie si on en a envie, parce que pourquoi pas.
Quand on voit, je sais pas, une valse, je pense à une valse comme Panique par exemple, elle est hallucinante d'un point de vue des lignes de basse, justement. Il y a quasiment il y a quelques accords avec des fondamentales, mais sinon ça chante en dessous autant qu'au-dessus. Et c'est marrant, il y a des trucs très étonnants qu'on n'entend nulle part, c'est d'avoir des septièmes. Enfin là, c'est très, très technique, je ne sais pas si ça va parler, mais d'avoir des septièmes à la basse. Quoi. C'est carrément, c'est à ça que dans le classique. Quoi.
Ouais.
Donc comme quoi, ces mecs avaient quand même un espèce de langage étendu. Quoi. Enfin,
ouais, tout à fait. Ouais.
Que tu n'as pas du tout en jazz, par exemple. En jazz, c'est très rare d'avoir...
Non, parce qu'on part pas du même matériel non plus. On part d'une grille ou enfin surtout nous étant européens, on part de trucs de grilles écrites. Mais eux partant de leur tradition orale, ils disaient tiens, je joue comme ça, tiens, c'est pas mal. les mecs ils refont ci, ils refont ça. Et moi, ça reste encore incertain. Encore,
j'étais super chiant au début parce que quand on travaillait avec Pedro et tout, je dis bon, alors là c'est sol basse de si, ensuite c'est do basse de mi bémol et tout, tu sais, les grilles ça faisait des trucs noirs sur les trucs et tout. Alors quand la plupart du temps en jazz c'est assez simple. Ouais. Et quand tu vois les trucs, on s'était pris la tête vraiment à faire les bonnes basses et tout, c'est... ça nous occupait bien.
Et tu parlais de flambée monte albanaise, est-ce que tu le... dans quelle tonalité tu la joues?
Alors moi je le joue en do mineur, parce que j'ai toujours appris en do mineur, mais je sais que c'est pas la tonalité d'origine, c'est si mineur là.
C'est si mineur.
Et je pense que c'est une question
de retranscription.
C'est-à-dire qu'il y en a une époque aussi où la partition c'était un marché, donc pour que les gens apprennent à jouer et tout, on préférait les tonalités entre guillemets simples, c'est-à-dire avec, pourtant il y a trois bémols en do mineur, il y a avec deux dièses en si mineur, mais bon, attends, on va expliquer ça, je sais pas. Pourtant, moi, j'ai essayé de l'avais refait en si mineur et je me suis dit, putain, c'est vachement plus simple à l'accordéon en fait.
Ah ouais.
Le Gus Wieser, c'est vraiment c'est le Django de l'accordéon.
C'est un ovni
à l'époque. Et puis, il jouait jamais un thème pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il a un canevas un peu comme les thèmes de certains thèmes de Django. Donc en fait, comme il lisait pas, il n'écrivait pas la musique, pour la transcription, c'était l'enfer. Parce que le mec, il disait, vas-y, rejoue-moi la phrase. Mais c'est pas la même. Mais je vois des valses, je pense à des valses comme Douce Joie, par exemple, qui est un thème de variation, en fait.
Oui, voilà,
c'est une des rares valses, d'ailleurs, parce que la plupart, elles sont en forme AB, trio.
Ouais.
Et là, c'est une valse qui est AB.
AB
c'est
avec
toujours AB, et AB avec que des variations.
Voilà,
et toutes les variations sont super belles. Quoi. C'est le même canevas, et tu vois tout ce qu'il arrive à broder autour... sans que tu t'ennuies jamais. Puis quand tu retranscris, il y a une espèce de truc dans les phrases, tu fais waouh,
ouais,
chercher des trucs.